la dernière fois, je voulais donner un soupçon d'optimisme à nos amis mexicains en disant « si loin de Dieu, tout va mal, c'est la guerre civile, etc. »
Et puis, et non, point de vue économique, le Mexique va sensiblement assez bien. Chanceux, vous avez eu plein de statistiques qui reprenaient le Mexique, donc je peux y faire référence. Il y a eu des hauts débats, des crises graves, 2001, 2008, important. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une résilience de l'économie mexicaine assez forte. Et contrairement aux autres pays qu'on a vus, le Mexique est proportionnellement parlant moins bien doté au niveau des ressources naturelles ou agricoles. Donc oui, il y a un effet Asie qui fait monter les prix et tout va bien. C'est pas l'Argentine avec son soya. Il n'y a pas 10% du Mexique qui plante en soya, etc. Donc oui, un peu. Et c'est surtout le pétrole, et on va parler du pétrole tout à l'heure. Et donc, le modèle mexicain, c'est le modèle d'industrialisation par le manufacturier essentiellement. C'est tout le monde, ceux qui me connaissent, j'ai travaillé longtemps sur les maquilas. Et la période, le modèle maquila lui-même a été remis en question, du moins dans sa partie que vous connaissez, c'est-à-dire ces espèces de grandes usines à bas salaire, etc. Il y en a encore, mais c'est plus là le trait caractéristique du Mexique. Le Mexique a su pleinement l'arrivée de la Chine. C'est peut-être le pays, parce que peut-être avec le Costa Rica, qui avait misé le plus sur le manufacturier bas de gamme, ben, les produits asiatiques ont tout bouffé la confection, ont tout bouffé les jouets, ont tout bouffé les souliers, etc. Hein. Et donc, le Mexique n'a pas eu le choix. Hein. Peut-être la mise sur la touche, c'est peut-être le modèle latino-américain. Et était beaucoup vers le moyenne gamme. Ça, c'est un peu la conférence que j'avais faite l'autre fois. Je voulais quand même dresser le portrait. Donc, maintenant, le Mexique, ses principaux produits d'exportation, ben, c'est des télévisions, c'est des automobiles, des pièces automobiles, des lentilles optiques, là, des écrans plats, essentiellement. Bon, c'est des télévisions, là. Et du pétrole. Donc, si on prend les cinq premiers, grosso modo, c'est la même chose. Et le pétrole a eu tendance à augmenter, non pas en quantité, mais en prix. Il y a eu l'effet un peu... Donc, là... La production de Pemex et l'exportation de pétrole vers les États-Unis notamment a diminué. Mais la production de Pemex est passée du summum de la période en 2005, c'est 3,5 millions de barils jour, c'est énorme. Et actuellement, on est à 2,5. Donc, en l'espace de quelque chose comme 7-8 ans, on a perdu 1 million de barils jour. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Mais les prix ont triplé. On vend plus cher notre pétrole, donc jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop paru dans les chiffres. Il faut savoir que le pétrole est intimement lié au Mexique moderne. Les héros tout azimut de la Révolution, ben c'était après la Révolution, mais c'est la nationalisation du pétrole, hein, de Pemex, par Cárdenas. Son fils a été candidat perpétuel au Mexique pour le PRD. Et c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Hein? Donc, il y avait une espèce de symbolique. C'est comme si au Québec, nous, on décidait Hydro-Québec est au-delà d'une entreprise électrique. C'est un drapeau, c'est une fierté nationale, etc. Et donc, ça a toujours été tabou de toucher à la réalisation de Cárdenas en disant la Constitution dit que le pétrole est appartient aux Mexicains et doit être géré par l'État. Point final. Et donc, c'est peut-être un des l'énergie est en général dans le monde assez fermée. L'exception, c'est plutôt nous, c'est le Canada, les États-Unis, où c'est ouvert au privé. Il y a une intervention étatique assez forte un peu partout sinon, mais le Mexique est particulièrement fermé. Et là, actuellement, le grand débat, et M. Nieto est en train de gager sa présidence là-dessus. Donc, Nieto, c'est le nouveau président qui a maintenant fait un an. Et le grand débat actuellement à Mexico, c'est justement la réforme énergétique. Il y a des volets gaz, il y a des volets électricité. On va surtout parler de pétrole avec Pemex. Bon. Pourquoi maintenant? Ben, c'est bête, la production stagne, diminue. parce que essentiellement c'était l'immense réservoir de canne d'arrêt qui avait été découvert dans les années 70. Ben là, on est en 2013 et c'est le même puits qu'on siphonne. Et à un moment donné, c'est essentiellement c'est le Tabasco, c'est la partie nord de la péninsule du Yucatan, là, pour les gens qui connaissent moins le Mexique. Là. C'est la fin du Veracruz, le Tabasco et le Campeche, là, comme ça. Là. Et c'est là que sont essentiellement c'est de la production offshore, mais en eau basse. Donc, on n'est pas très loin du littoral, mais on est dans l'eau. Et c'est essentiellement l'immense candidat. Donc, lui, en termes de production, s'épuise. On arrive au fond du baril, si on peut dire. Et il faudrait massivement réinvestir. Alors, le Mexique ne s'est pas croisé les doigts depuis 10 ans. Ils ont triplé les investissements que Pemex a fait. Or, malgré ça, la production descend. Pourquoi? Parce qu'il faut aller maintenant en eau profonde. Alors actuellement, du côté américain, une grande partie du pétrole américain, vous l'avez vu, c'est la plateforme qui a coulé, là. Exxon. Comment ça s'appelait, Exxon? Hein? Deep Horizon aux États-Unis. Mais il faut savoir que c'est la même continuité du même plateau, hein, du côté américain du Golfe. Eux, il y en a à peu près 140 puits opérationnels actuellement. Le Mexique en a 6. Donc, vous voyez, avec à peu près le même potentiel pétrolier, là. Simplement parce que Pemex n'a pas les sous pour aller, ni la technologie. Et malgré, on essaie de faire ça. Donc, ça, c'est le premier point, baisse de la capacité malgré les réinvestissements. La capacité de réinvestir de Pemex actuellement est au top, avec ses propres ressources. Pourquoi? C'est que, grosso modo, l'État mexicain finance, là, ça diminue un petit peu parce qu'on a permis à réinvestir, mais grosso modo, 30% du budget mexicain, c'est Pemex. C'est comme si Hydro-Québec finançait toute la santé au Québec. Or, tu as le choix. Est-ce que tu fermes les hôpitaux pour permettre à Hydro-Québec de faire des barrages? Ou tu fais des barrages, mais tu fermes des hôpitaux. Ou tu fais pas de barrages, mais tu n'es plus capable de financer des hôpitaux. Donc, l'État mexicain est pris comme ça. Donc, la part des royautés versées par l'entreprise d'État est trop grande dans le budget. Or, si on décide de baisser les royautés pour permettre à Pemex d'investir, et ça ne sera pas suffisant, mais si on le ferait, il faudrait que le gouvernement mexicain accepte de porter la taxe sur la valeur ajoutée qui est autour de, me semble, 12% actuellement, autour de 22-23% pour simplement combler le manque à gagner. Imaginez les émeutes. On parle d'augmenter 1% la TVQ, tout le monde gueule, et il faudrait doubler. Et donc, il y a un aspect technique, un aspect financier. Et là, il y a un autre aspect. Et là, nous tous, depuis que je m'amuse à lire là-dessus, on ne voit pas le début de ce qui nous pend au nez. C'est effectivement la révolution énergétique aux États-Unis, pour ne pas dire en Amérique du Nord. 2008 est une année charnière. Avec Christian, on a écrit un texte qui est assez bon, qui disait l'ALENA dans le rétroviseur. Donc, on faisait une espèce de bilan de 20 ans, qui a sorti à peu près dans ces années-là, 2008-2010, avec les chiffres de 2008, en disant les belles années de l'ALENA, c'est fini, ça se passe avec la Chine, etc. etc. 2008, c'est deux choses. Premièrement, c'est la récession américaine, mondiale, américaine et mondiale. Deuxièmement, c'est la diffusion accélérée du modèle du gaz de schiste, donc ce qu'on appelle essentiellement les forages horizontaux. Alors, on peut trouver du gaz. Ça s'appelle les gaz de schiste, puis ça fait le débat chez nous. Mais aux États-Unis, on trouve du pétrole avec ça. C'est une méthode qui a été développée pour faire du pétrole au début. Alors, ce qui fait qu'à court terme, puis dans ce domaine énergétique, on parle 10 ans, là, autour de 2025, 2020, 2025, 2030, les États-Unis vont devenir un exportateur net de gaz. Ils vont devenir autosuffisants, probablement sur le plan pétrolier. Ah, ça change la donne mondiale. Alors, avec la nouvelle technique, ce qui fait que le principal lieu de production de pétrole ou d'énergie fossile dans le monde, c'est, ça va être où? L'Amérique du Nord. Ça ne sera plus le Moyen-Orient. L'année passée, en novembre 2012, donc c'est très très récent, les États-Unis ont produit plus de pétrole que l'Arabie Saoudite. Et ça, on n'est qu'au début de la révolution énergétique. Bon. D'un point de vue mexicain, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, on vendait cher, les prix vont baisser. Deuxièmement, on est en train de manquer le bateau de l'intégration énergétique de nos partenaires de l'ALENA. Parce qu'eux, ils regardent le débat, nous, du Canada, on veut amener le Keystone XL, donc de l'Alberta au Texas. Essentiellement, on va tout intégrer la filière pétrolière canado-américaine. Il faut savoir que le tuyau est tellement gros, là, ce qu'ils veulent créer, ça va permettre pour les États-Unis de réduire 30% de leur pétrole importé du Venezuela et de l'Arabie Saoudite. Et donc, essentiellement, les Mexicains ont peur d'être éjectés, et donc ils veulent être un peu dans la partie. Donc, deuxième effet, on n'a pas l'argent, on n'a pas le technique, puis on pense qu'on va manquer le truc d'intégration énergétique sur lequel on pense vendre pour payer nos écoles. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le débat se déroule actuellement sur la réforme. Puis, il y a un autre élément. Quatrième élément pour la réforme. Le Mexique va bien. On l'a dit, à peu près 4% de croissance, ce qui est très honorable. Ce n'est pas les sauts de puces, ce n'est pas les envolées Argentine. C'est très honnête. Surtout dans un contexte où ils sont plus manufacturiers. C'est plus lourd que planter du soya, faire une usine d'auto. Ça prend plus de temps. Mais on pense que si on réussit à redévelopper le potentiel énergétique, donc on espère ramener la production à 1 million de barils de plus, donc retourner à 3,5 millions comme on produisait traditionnellement aux alentours de 2020-2025, ben, premièrement, ça va créer 2 millions d'emplois. Ça va rajouter 2 points de pourcentage au PIB, donc on va aller autour du 6% de croissance annuelle. Ben, 6%, les statistiques le montrent généralement, c'est là qu'on voit un recul accéléré de la pauvreté dans un pays. Dans un pays développé, à partir de 6%, là, on voit l'accumulation, une création de classe moyenne et tout. En bas, c'est un peu trop bas. Et donc, quatrième élément, bien évidemment, on voit que c'est nouvel. Cinquième élément, puis là, on revient aux États-Unis. Comme le prix du gaz est extrêmement bas, parce qu'il y en a partout, d'ailleurs, c'est pourquoi on a un gros problème avec Kyoto, Canada. C'est quand on veut du pétrole, on trouve du sacré du gaz. Et on ne sait pas quoi faire, donc on le brûle pour faire fondre le sable bitumineux qu'on met avec de l'eau dans des turbines pour extraire, séparer le pétrole du sable. Et donc on brûle l'essentiel du gaz qu'on trouve pour simplement liquéfier le bitume. Donc c'est pour ça que le bilan environnemental des sables bitumineux, c'est atroce. Mais c'est vrai partout. Mais ce que ça veut dire pour les États-Unis, c'est que de plus en plus, les gens, on commence à avoir des études, ou du moins des pistes d'études, disant que la période de délocalisation vers l'Asie, c'est fini. Hein? On risque à partir de revoir maintenant un rapatriement des capitaux américains vers les États-Unis, parce que le coût de l'énergie aux États-Unis va combler l'avantage de main-d'œuvre en Asie. Et ça va donner, évidemment, plus d'efficacité au niveau de la gestion directe des entreprises. Évidemment, quand tu gères ton usine en pleine minuit, puis tous les soirs, il faut que tu te lèves à 2h du matin pour avoir ton meeting de bureau parce que ton usine est à Shanghai, mais toi, tu vis à Washington, à un moment donné, tu t'énerves. Hein? Tu as besoin de sommeil. Alors que si on met tout ça ensemble, évidemment, c'est moins compliqué pour la chaîne de transport. Il peut toujours avoir un conteneur pris dans un port ou je sais pas quoi. Donc, on pense que ça va, du moins, sinon arrêter la délocalisation, du moins la freiner. Donc, on est en train d'assister à une certaine remanufacturisation, donc un regain manufacturier aux États-Unis. Et ça, là, on ne sait pas que ça va être pour les États-Unis, et pour le Canada et le Mexique. Or, on sait que quand le Canada, le Mexique et les États-Unis vont bien, les deux pays reçoivent des effets de débordement. Là, dans le sens que, comme il y a des filières, comme c'est intégré, ben, si le marché va mieux, quelque part, ça crée une demande, ça permet, et là, on peut réactiver une certaine... Donc, à court terme, du moins, c'est la vision mexicaine, c'est qu'on est on s'enligne vers une période plutôt de croissance forte. Mais on y va vraiment avec un vieux modèle d'énergie. Au Canada, on fait la même chose. On n'est pas plus originaux. J'aurais pu faire la même conférence en disant Canada plutôt que Mexique. Et essentiellement, il y a un certain optimisme. Et de plus en plus, ce qui est assez phénoménal dans le cas de Pemex, Nieto a l'appui d'une partie de l'opposition. Et donc, on ne voit pas ce vieux blocage historique dans tout ce qui s'appelait réforme énergétique. Et c'est pour ça qu'on est pas mal sûr que ça va passer. Et donc, qu'est-ce que ça veut leur dire? C'est simplement qu'ils vont avoir une vision un peu plus colombienne. Donc, c'est un peu le modèle colombien de gestion. C'est que, théoriquement, le pétrole reste de propriété étatique. Pemex, le principal opérateur, mais l'État va donner des concessions à long terme. Vous avez le droit d'exploiter pour 50 ans, 100 ans à des compagnies étrangères de manière à amener des investissements. Les compagnies étrangères, il ne faut pas se cacher, ça va être surtout des Américaines comme telles et éventuellement participer à l'espèce d'intégration énergétique ou... pour repositionnement énergétique l'Amérique du Nord. Donc, c'est un peu le pari. Et ça va être le mandat de Nieto là, pour au moins la première moitié du mandat.